RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Édouard Dupénoit, l'actualité africaine au Sénégal. Les victimes des violences entre 2021 et 2024 soulagées par la décision du Conseil constitutionnel.
Quoi qu'en dise le pouvoir, quoi qu'en pense l'opposition politique, les sages sont clairs. Il est des crimes que l'on ne peut pas occulter. L'espoir d'une justice renaît donc pour ces victimes et pour leurs proches. Le groupe canadien Barrick Gold ne ferme pas la porte à une transaction à l'amiable avec le Mali dans son litige fiscal, mais il engage dans le même temps un arbitrage international via une branche de la Banque mondiale. La procédure a le potentiel pour durer plusieurs années. Emmanuel Macron et Andra Zoen conviennent d'une commission commune d'historiens pour faire la lumière sur les violences coloniales à Madagascar. On est à Antananarive dans quelques minutes. Et à Tripoli, où rouvre le musée national de Libye après quasiment 15 ans de fermeture. Il renferme 5000 ans d'histoire et de joyaux archéologiques. La majorité politique et l'opposition sénégalaise saluent chacune de leur côté la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi de modification de l'amnistie. Ce texte que les députés ont voté pour revenir sur cette loi parmi les dernières de la mandature Macky Sall. L'amnistie annulait alors les poursuites pour les crimes commis entre février 2021 et 2024 lors des manifestations de l'opposition. C'est impossible, juge le Conseil constitutionnel. Et in fine, Juliette Dubois, les premières concernées, les victimes et leurs familles, font part de leur soulagement.
Le doute n'est désormais plus permis. La loi d'amnistie votée en mars 2024 pour les faits commis lors des manifestations politiques ne couvre donc pas certains crimes listés par le Conseil constitutionnel, dont les meurtres, assassinats ou actes de torture, conformément aux accords internationaux ratifiés par le Sénégal. Une clarification, un soulagement pour Diop Taïf à la tête du collectif des familles de victimes.
Le Conseil constitutionnel a édifié les Sénégalais sur cette fameuse loi d'amnistie, qui était très flou et incompréhensible aux yeux de tous les Sénégalais et puis de justice. Et la décision du Conseil constitutionnel nous donne carte blanche, nous les victimes.
Les personnes concernées par ces crimes pourront réclamer justice dans les tribunaux du pays. Papa Abdoulaye Touré, étudiante en droit, dit avoir été torturé par des forces de l'ordre lors de son arrestation en 2023. Vidéos à l'appui. Pour lui aussi, les choses vont avancer dans sa plainte contre plusieurs hauts responsables, comme l'ancien ministre de l'Intérieur et l'ancien chef de la gendarmerie.
C'est un grand soulagement. Après 7 mois, j'étais la seule personne qui a été auditionnée. Maintenant, aujourd'hui, vu que les choses sont claires dans l'esprit de tout le monde, donc le procureur de la République, désormais, il peut demander à ce que toutes les personnes présumées être auteurs ou co-auteurs ou commanditaires de ces actes de barbarie puissent être auditionnées.
Diop Taïf annonce qu'un comité sera créé avec les victimes ainsi que des avocats et militants des droits de l'homme pour porter les plaintes qui sont nombreuses. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
L'onde de choc et l'exigence de réponse maintenant au Bénin. Les réactions sidérées continuent de se faire entendre après que le porte-parole du gouvernement a annoncé que 54 militaires étaient morts le 17 avril dernier lors de l'attaque dans la zone du Point Triple. Le plus lourd bilan depuis que les groupes djihadistes du Sahel ont commencé leur incursion vers les pays du Golfe de Guinée. Comment comprendre un tel massacre, se demande notamment Aboubacar Baparapé. Que faire aussi pour l'empêcher à l'avenir? Le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin répond à Clotilde Hazard.
On était encore sous le choc lorsque ceci est venu comme un coup de massue sur la tête de la population. Quel est l'intérêt de la coopération militaire qu'on a tant vantée avec la France et les États-Unis? C'est l'interrogation que tout le monde se pose et c'est pour ça que nous, Organisation de défense des droits de l'homme, interpellons le gouvernement et le chef de l'État pour que les mesures sécuritaires soient renforcées. Il faut que le gouvernement puisse coopérer tout au moins avec les deux pays frontaliers avec qui il est en foi. Donc qu'on mette de l'eau dans notre vin pour que la question sécuritaire passe au-dessus des égos individuels, quoi. Les déclarations d'apaisement, tout ça, ça n'apaise plus la population. L'inquiétude monte de plus en plus et on ne sait pas quelle sera la prochaine cible.
Aboubacar Baparapé de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin. Entre le Mali et Barrick Gold, la possibilité d'une procédure de plusieurs années. Le groupe canadien a entamé un arbitrage international via le CIRDI, l'organe dédié de la Banque mondiale, en assurant toujours qu'il est prêt à un règlement à l'amiable dans le litige à plusieurs dizaines de millions de dollars qu'il oppose à Bamako, les autorités de transition malienne, qui réclament une très forte enveloppe au titre d'arriéré d'impôts en vertu du code minier adopté l'année dernière. Le groupe canadien, Charlotte Cosset, semble prêt à cette procédure particulièrement longue.
Barrick a désigné le premier arbitre, deux autres doivent encore être nommés, un par le Mali et un troisième choisi conjointement. Après cela, un calendrier sera défini. Mamadou Gakko, avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions d'arbitrage international.
Classiquement, il y a deux phases. Il y a une première phase de procédure écrite. À l'issue de cette phase écrite, il y a une phase orale qui consiste en une audience. Des experts et témoins peuvent être entendus et l'affaire peut être plaidée par les parties. Alors, la durée totale de la procédure est très variable d'une affaire à une autre. On peut l'estimer à au moins 3 ans, mais elle peut être beaucoup plus longue.
Une procédure qui prendra plusieurs années, estime l'avocat.
Barrick a initié l'arbitrage et le Mali ne peut plus à ce stade revenir sur cette offre d'arbitrage. Donc le Mali est lié par la procédure et donc celle-ci se déroulera quelle que soit son attitude à son égard. Et il est important de relever que la décision qui sera rendue s'imposera au Mali comme une décision de justice et que Barrick pourra en l'occurrence l'utiliser pour saisir par exemple des biens maliens si Barrick obtient une condamnation de l'État malien dans cette procédure.
Une procédure qui n'empêche pas les parties de régler leurs différends à l'amiable, comme assure le vouloir Barrick. En cas d'accord hors de l'action menée auprès du CIRDI, il sera alors mis fin à l'arbitrage.
Charlotte Cosset. Le président français a quitté Madagascar hier après plusieurs jours passés en différents points de l'océan Indien. La grande île donc où Emmanuel Macron était attendu sur plusieurs points sensibles, ainsi du statut des îles éparses, administrées par Paris mais revendiquées par Antananarivo. Il évoque à ce sujet une possible cogestion, question mémorielle sensible également. La France doit restituer à la grande île plusieurs restes humains d'ici 4 mois. Et des historiens vont donc travailler sur les violences liées à la période coloniale, Sarah Tetto.
C'est pour moi très émouvant d'être avec la délégation française ici devant vous dans ce palais. J'espère retirer cette épine que vous évoquiez.
C'est dans l'enceinte du Rouvre, le palais royal qui domine la capitale, qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux descendants du roi Sakalav, décapité par les troupes coloniales françaises en 1897, au sujet de la restitution prochaine des restes humains réclamés depuis 2 décennies.
Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble avec ça ? D'abord, je crois permettre le deuil et permettre que des vies qui avaient été séparées puissent retrouver leur place. Ça ne répare pas les choses. Il n'y a que vous qui pourrez faire ce chemin qui est aussi un chemin de pardon, qui est éminemment intime. Mais nous en créons les conditions.
Créer les conditions aussi pour que la vérité sur les répressions sanglantes commises lors de la colonisation émerge enfin. Hier, juste avant son départ, le président a alors fait une annonce attendue.
Nous avons décidé avec le président Radjoel ce matin d'installer une commission mixte franco-malgache d'historiens autour de 1947 et des guerres de décolonisation et des atrocités qui ont été commises à cette époque, qui reste encore une plaie très forte dans l'histoire, évidemment, de Madagascar, mais qui est aussi un moment de notre histoire commune qu'il faut rouvrir.
Une décision saluée hier soir par les historiens malgaches. Ces derniers espèrent enfin accéder aux archives de la police coloniale. Un pas de plus pour lever notamment le voile sur le nombre réel de victimes des répressions. Selon les sources, les chiffres varient entre 10 000 et 100 000 morts. Sarah Tetto, Antananarivo, RFI.
Nous sommes le 25 avril et cette date marque une petite victoire symbolique dans la lutte contre le paludisme. Ça se passe au Cameroun, en cette journée mondiale d'ailleurs. Chaque année, la malaria tue 11 000 enfants à travers le pays. Mais ces chiffres sont en train de baisser. Les autorités restent prudentes quant à savoir si cette baisse est liée ou non à l'augmentation de la couverture vaccinale. Mais les chiffres sont têtus. 950 000 doses de vaccins reçues l'année dernière, quasiment la moitié déjà administrées. Et la méfiance qui s'estompe peu à peu, Richard Onanena.
Avec une couverture de 70%, l'administration des premières doses est un succès selon le programme élargi de vaccination, PEV, malgré les doutes au sein de la population liés au vaccin. En revanche, le taux de vaccination est moins convaincant pour les doses suivantes, avec moins de 50% pour la troisième dose. Selon Shalom Doula Tchokfe, secrétaire permanent du PEV, la mise en place d'un nouveau calendrier vaccinal pourrait expliquer ce retard.
C'est des rendez-vous inhabituels pour les mamans, parce qu'il faut amener l'enfant à 6 mois, à 7 mois et à 9 mois.
Certaines données du ministère de la Santé montrent une baisse significative du nombre de décès liés au paludisme dans les 42 districts de santé où les vaccins ont été administrés. Mais pour Shalom Doula Tchokfe, il est encore tôt pour associer ces chiffres à l'introduction du vaccin.
On ne peut pas dire que c'est attribuable à la vaccination seulement parce qu'il y a eu plusieurs efforts aussi de lutte contre le paludisme qui se sont renforcés, notamment la chimioprévention du paludisme saisonnier, aussi le traitement vaccins préventifs intermittents qui ont été fournis de manière intégrée avec la vaccination et nous avons travaillé avec le programme national de lutte contre le paludisme pour cela.
Le Cameroun recevra de nouvelles doses de vaccins en septembre prochain. Chaque année, le paludisme tue près de 11 000 enfants dans le pays. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Et pour les amateurs d'histoire et de patrimoine, c'est une autre raison pour laquelle ce 25 avril sera marqué d'une pierre blanche. Puisqu'après 14 ans de fermeture et les affres de la guerre, le musée national libyen rouvre aujourd'hui ses portes à Tripoli. Il abrite l'une des plus importantes collections muséales d'Afrique du Nord. 5000 ans d'histoire en ses murs. Sauf qu'il était fermé depuis 14 ans, depuis 2011, et les émeutes qui avaient eu lieu lorsque des rebelles avaient fait irruption dans ces salles. Le personnel avait tout de même pu conserver et garder en lieu sûr les pièces les plus précieuses des collections. Ouda Ibrahim.
Ce sont ces milliers de pièces riches et variées qui retracent l'histoire de la Libye, de la préhistoire à l'indépendance du pays en 1953, qui font de ce musée une référence. Les objets représentent les époques phéniciennes, puniques, grecques, romaines, byzantines et ottomanes. Une importante section est dédiée aux anciennes tribus libyennes et leurs traditions. Une autre expose l'histoire naturelle du pays avec une collection unique de fossiles et de dessins rupestres. La réhabilitation a pris plusieurs années, entrecoupée en raison des conditions sécuritaires. Elle s'est accélérée depuis 2022. Le Musée national libyen s'est doté des technologies et moyens modernes et interactifs, a déclaré Walid Lafi, ministre d'État chargé de la communication. Le gouvernement de Baïba mise sur cette réouverture pour montrer que la vie suit son cours à Tripoli. Les grands moyens ont en effet été déployés pour la réouverture. Des spots publicitaires sont diffusés à la télévision où on y voit des stars de cinéma égyptiens et syriens parcourir les allées du musée.
Ouda Ibrahim
et Edouard Dupénoit pour le journal. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. 7h42 en temps universel.